Je vous invite, chers amis, à prier avec moi avant de commencer. Quel privilège que nous avons, Seigneur, d'être réunis en ton nom, comme nous venons de chanter, d'avoir également la présence de ton esprit en nous pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et nous l'avons prié à travers ce chant que ta parole donc soit active et vivante dans chacun d'entre nous. Et cela, tout au long de cette nouvelle année 2022, nous te prions pour toutes tes grâces envers nous. Équipe-nous, nourris-nous, et cela, Seigneur, par ta grâce et pour ta gloire. Amen. Bon, moi, j'ai entendu parler, dans cette fin d'année 2021, d'une joueuse de fléchettes britannique. Je ne sais pas si vous suivez les fléchettes ou darts, comme on dit en anglais, sur la télé de temps à autre. Moi, je pense que ce n'est pas un bon sport, mais ça, c'est mon avis perso. Donc, excusez-moi si je viens de vous décevoir par rapport à ça. Mais apparemment, il y a une femme qui s'appelle... Fallon Sherrock, de 27 ans, qui est en train de bousculer la hiérarchie des darts parce qu'il s'agit d'une femme. Le monde des fléchettes est en ébullition selon l'RTBF. Elle est entrée dans l'histoire de son sport en 2019 en devenant la première femme gagnante d'un match en championnat du monde. Et depuis lors, elle continue de faire parler d'elle et de briser les barrières. Vous pouvez trouver tout ça sur YouTube, c'est passionnant. Apparemment, elle prend du plaisir encore aujourd'hui à profiter du fait qu'en dehors du monde professionnel des fléchettes, elle n'est pas facilement reconnue. Et donc, dans un pub anglais, là où on joue, peut-être vous le savez, aux fléchettes de manière amicale souvent, cela lui arrive qu'un homme lui propose une partie pour une dizaine d'euros, un truc pareil. Et chaque fois cela arrive, l'homme termine en disant de façon étonnée, « Tiens, toi tu joues plutôt pas mal. » Et elle répond en anglais, « Google me. » Alors, fais des recherches Google sur moi. La déception, peut-être pas la déception, mais l'étonnement lorsqu'on découvre la vraie identité d'une personne, ça change notre perception de la personne, n'est-ce pas? On voit tout d'un coup de quoi cette personne est capable. Et Noël, que nous venons de traverser, c'est une période qui permet de la réflexion au sujet de Jésus et de ce que lui, il est capable. Et ici, je fais un petit avertissement pour ceux qui ont suivi le message du 24 décembre, on était en plus petit comité à Avenue-les-Guerres, vous allez vous reconnaître parce que dans un sens, on reprend le même message pour nous de manière plus large pour l'Église. Parce que Jésus, à Noël, c'est le fils de Marie, né dans une étable. Voici Noël, nous l'avons chanté cette année-ci, car l'enfant nous est né. Et puis nous terminons, le fils nous est donné. Mais il y a un danger que nous ignorons, nous, l'identité de ce fils. En pensant que lorsque nous chantons « Le Fils nous est donné », que nous avons toujours en tête Jésus, le fils de Marie. C'est vrai cela. Mais si ce n'était que cela, cette naissance dont nous avons affaire n'aura rien de particulier. Car il ne s'agit pas d'un fils, mais le fils. Alors si vous trouvez la lecture dans Jean que vous avez sous les yeux, au chapitre 1, verset 14, on le décrit ainsi, « Le Fils unique, venu du Père. » Et le verset 18, « Le Fils unique qui est dans le sein du Père. » Ce Fils, donc, précède l'enfant qui est né dans l'étable. Et de manière tout à fait exceptionnelle, ce fils est pourtant identifié avec le fils de Marie. également au début des récits chrétiens. On ne commence pas dans les évangiles. Nous sommes en train de débuter la lecture de l'évangile de Matthieu dans l'Église, mais nous ne commençons pas avec le ministère public de Jésus, son enseignement, son œuvre, qui avait lieu à plus ou moins à partir de 30 ans pour Jésus. Non, les évangiles commencent où ? Avec la naissance de Jésus-Christ, bien avant qu'il commence à enseigner publiquement. Pourquoi ? Parce que sa naissance est clé pour comprendre son identité. Pas de surprise donc que Jean, lorsqu'il commence son évangile, chapitre 1, verset 1, avant de nous parler de l'œuvre du Fils, il nous parle de son identité. Et le Fils est décrit comme étant la parole. Verset 14 nous dit « La parole a été fait chair et qu'il avait une gloire comme celle du Fils unique ». Et donc, lorsqu'on parle de la parole à partir du verset 1, nous sommes toujours en train de désigner ce Fils. Au commencement, dit le verset 1, était la parole. Le Fils, donc, est là, au commencement, avec Dieu. La parole, le Fils, n'est pas donc créé par Dieu, mais il est avec Dieu. Non seulement avec Dieu, mais la parole était Dieu. Le Fils, donc, est Dieu. Verset 4, en elle, cette parole était la vie. Ce Fils a en lui-même la vie qui vient de Dieu, parce qu'il est Dieu. Donc, le Fils a existé bien avant la naissance de Jésus. Vous voyez cela? Il a toujours existé. L'incarnation, le moment où le Fils a pris chair, n'est pas compréhensible sans parler de la Trinité. La Trinité, voyez-vous, n'est pas un truc complexe à écarter, à laisser pour Benjamin lorsqu'il va faire son master, ou pour d'autres qui ont des doctorats et ainsi de suite. Non, la Trinité, le Dieu trinitaire, trois en un, est indispensable pour tout chrétien. Un bébé humain est né à Bethléem, oui, mais la majesté de l'incarnation, c'est que le Fils éternel, qui est avec Dieu et qui est Dieu depuis l'éternité, a pris sur lui la chair humaine. La parole, verset 14, a été faite chair. Le Créateur de l'univers, selon le verset 3, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce Fils-là devient homme. Et en devenant homme, le Fils ne cesse pas d'être Dieu. Il a toujours été Dieu, le Fils, qui vit depuis toujours, l'unique engendré du Père, selon les anciennes confessions de la foi chrétienne. Engendré depuis l'éternité. Vrai Dieu de vrai Dieu, selon une autre confession de foi, celle de Nicée. Mais ce Fils ajoute à sa nature divine la nature humaine. Nous confessons encore, dans ces symboles de la foi, un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme. Et donc l'erreur à Noël, c'est d'ignorer à quel point les deux autres personnes de la Trinité, le Père et l'Esprit, sont aussi engagées dans l'incarnation. À l'incarnation de Jésus-Christ, nous contemplons la grandeur de Dieu. Mais qui est Dieu ? Le Dieu unique, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit qui coexistent depuis l'éternité. On a commencé avec des grandes choses, n'est-ce pas? Alors réveillez-vous si vous êtes déjà endormi. Je sais que le 1er janvier, c'est parfois un moment après les fêtes. Si vous avez besoin de l'eau, il y en a quelque part. Donc accrochons-nous pour quelques instants. Alors maintenant, on a fait cette illustration le 24 décembre. On va faire la même chose et je vais désigner mes trois volontaires. Oui, Joachim, je te vois. Je sais que tu essaies d'éviter mon regard. Joachim, Paul et Diego, venez ici brièvement. Ne vous inquiétez pas, les amis. Enlève ton manteau, Joachim, si tu veux bien. Oh, t'as pas de manteau. C'est bon, c'est un peu. Venez, venez. Pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc, Joachim, toi viens devant. Tu prends le manteau, mais attends deux secondes. Bonnet, s'il te plaît, Hugo. Écharpe. J'ai piqué ça de mon épouse ce matin. Alors, on va imaginer qu'il fait froid. Normalement, il doit faire froid. On a du chocolat chaud qui nous attend après, mais tout d'un coup, c'est comme s'il fait l'été, il me semble. Mais imaginons qu'il fait froid. Et Joachim a envie d'être bien habillé pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même mettre son manteau, mais il va demander à ses amis de l'aider dans ce désir d'être bien habillé pour l'hiver. Et donc, Joachim va mettre le manteau, mais Diego, tu vas mettre le bonnet sur Joachim, et Paul, tu lui mets l'écharpe. C'est un peu grand, mais ça va tenir. Excellent. Alors, mets-toi ici bien devant la caméra, que tout le monde te voit. Voilà, super. Alors, il est prêt pour l'hiver, n'est-ce pas? Il est bien habillé. Mais qui était impliqué dans l'habillement de Joachim? Il y avait Joachim, dans ce sens-là, vous comprenez bien le fils, mais il y avait aussi deux autres personnes qui étaient impliquées dans cela. Diego, alors on va dire le Père, et Paul, l'Esprit. Tous les trois sont impliqués dans l'œuvre de rendre Joachim habillé. Merci les gars, c'est gentil. Je pense et j'espère que vous comprenez bien ce que cela signifie. Vous pouvez mettre ça ici derrière. Reprenez place, ça le suffit. Excellent. Donc, vous voyez où est-ce que nous voulons aller avec cela? Tous les trois impliqués, mais une personne des trois s'est incarnée en tant que personne équipée pour l'hiver. Même chose avec Dieu. Tous les trois personnes de la Trinité impliquées dans l'incarnation, mais une seule s'est incarnée, le Fils. La venue de Jésus-Christ témoigne de l'œuvre de notre Dieu trinitaire. D'abord le Père, rappelons-nous de Jean 3,16, chers amis. Dieu a tant aimé le monde que quoi? Qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu est impliqué, le Père est impliqué dans l'envoi du Fils. Ensuite le Fils, engendré par le Père depuis toujours, prend sur lui les habits, la nature humaine. Ensuite, l'Esprit. Nous attribuons l'union de la nature du Fils avec la nature humaine de Jésus à l'Esprit. Je cite de nouveau le symbole de Nicée. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie. Et a été fait homme. Donc l'œuvre de l'Esprit Saint fait en sorte que Dieu souffle la vie du Créateur dans ce Fils de Marie. Donc les trois personnes de la Trinité impliquées dans l'incarnation. C'est au-delà de notre portée cela. Même la portée de nos théologiens les plus intelligents. Mais c'est bien pour cela que cela engendre l'adoration. Et c'est pour cela qu'on se met encore debout dans notre église et nous chantons les louanges de Jésus-Christ. Donc Noël, c'est pas le moment où on dit « Oh, qu'il est mignon, Jésus dans la crèche ». Mais c'est là, dans la crainte et le tremblement, que nous confessons bouche bée devant Dieu à quel point ce qui arrive à Noël dépasse notre compréhension. Donc ça, c'est notre premier point, l'identité du Fils révélée par l'incarnation. Mais notre deuxième point, c'est l'œuvre de Dieu trinitaire, à travers le Fils. Le Fils est incarné, mais de nouveau, Dieu, le Dieu trinitaire, est à l'œuvre, dans l'œuvre de ce Fils. La suite de Jean chapitre 1 se focalise sur cette œuvre-là de Jésus, surtout les versets 10 à 18. Nous avons lu à partir du verset 14, là, tantôt. Si à Noël, nous avons parlé de la naissance de Jésus, cela déclenche la possibilité à Noël d'une autre naissance, selon le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçue, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. C'est-à-dire, ma naissance, votre naissance, à tous ceux qui l'ont reçue. Au lieu donc d'être contraint à rester dans les ténèbres de notre péché, de notre rébellion au sujet de Dieu, nous pouvons devenir, grâce à l'enfant qui est né à Noël, nous-mêmes des enfants de Dieu. Nés à ce moment-là, spirituellement parlant, verset 13 nous le dit, non du sang, c'est-à-dire selon notre héritage, notre ethnie, notre race, notre famille. Non, toutes ces choses-là ne sont pas responsables pour cette nouvelle naissance. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est ainsi que des enfants conçus humainement parlant arrivent sur terre. Non, mais il ne s'agit pas de ça. Mais nés de Dieu. Une telle naissance spirituelle fait en sorte que quelqu'un quitte les ténèbres dont parle Jean chapitre 1 et arrive à la lumière. Une lumière qui éclaire tout homme, vous voyez cela. Pas juste donc des personnes religieuses, pas juste des personnes européennes, pas juste les personnes sages. Non, tout homme, tout type de personne qui confesse Jésus-Christ, qui croit en son nom. Nous pouvons devenir enfants de Dieu. Enfants par adoption. Mais comment pouvons-nous devenir des enfants par adoption? Mais parce que le Fils est responsable pour cette adoption. Il est le Fils de nature et il fait de nous des enfants d'adoption dans la famille de Dieu. Donc, quand nous voyons là à quel point l'œuvre du Fils dépend de son identité en tant que Fils. Et c'est à ce stade que j'aimerais élargir un peu notre découverte de ces réalités en consultant le premier texte qui a été lu pour nous, Tite chapitre 3, à partir du verset 4, ce que Eric a lu pour nous. D'abord, on va juste voir ensemble le Père. Parce que peut-être vous avez l'habitude d'entendre le slogan que c'est Jésus qui nous sauve si nous sommes chrétiens. Peut-être vous avez vu une étiquette sur une voiture, Jésus sauve. Mais dans ce texte-ci, c'est Dieu le Père qui sauve. Le verset 4 évoque la bonté de Dieu notre sauveur. Et à ce stade, cela désigne Dieu le Père, car c'est le Père qui, selon le verset 6, répand sur nous l'Esprit avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Il y a une distinction là entre Dieu et l'Esprit, et ensuite Jésus-Christ, le Fils. Dieu le Père sauve par sa miséricorde. Le Père, lui, est miséricordieux. Ce n'est pas juste donc, d'avoir en tête que oui, Dieu, le Père, est dur, est difficile, est éloigné de l'homme. Et c'est Jésus, le Fils qui nous aime, qui nous sauve. Non. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit nous aiment tous, sont remplis de compassion pour nous. Il n'est pas longtemps dans notre Église que nous avons étudié dans les groupes de quartier Exode chapitre 34, lorsque Dieu fait passer sa bonté devant Moïse pour confirmer sa présence parmi ce peuple rebelle d'Israël après l'épisode de Vaudor. Que révèle-t-il à Moïse à ce moment-là de lui-même? L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Toute l'Écriture nous peint un portrait de Dieu le Père, compatissant, juste, saint, qui pardonne, qui est lent à la colère. Quand Dieu, Père, Fils et Esprit agit ensemble, voyez-vous, révèle ainsi donc le caractère de notre Dieu trinitaire. Ensuite, le Fils. Alors, avant de plonger de nouveau dans Tite, revenons pour un instant vers Jean chapitre 1. Quand Jean 1, 14 parle de la parole qui a été faite chair. Justement, le Fils incarné révèle le Père. Le mot « parole » utilisé ici de façon très claire désigne donc le Dieu qui se révèle. Il se révèle par sa parole. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se dévoile à travers sa révélation de lui-même dans la Bible. C'est pour cela que nous poursuivons un plan de lecture. Mais il se révèle suprêmement dans la personne de son Fils. Donc vous voulez connaître Dieu? Vous êtes frustré peut-être par tous ces chrétiens qui semblent connaître Dieu? Vous voulez vous-même connaître Dieu? Le Fils qui a pris sur lui la chair humaine, Jésus, nous révèle Dieu. En Jésus, nous contemplons la gloire de Dieu. Car il s'agit du Fils unique venant du Père. Le verset 18 rend cela très clair. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Il n'y a que le Fils qui peut faire ça. Dans la personne du Fils, le Dieu trinitaire se révèle à l'homme. Alors, je ne sais pas ce que vous aimez faire à Noël, mais lorsque j'étais enfant, j'étais dans une famille qui aimait regarder des films. Et on aimait les films de suspense de Alfred Hitchcock. Je ne sais pas si vous connaissez certains de ces films, mais j'ai beaucoup aimé ces films en tant que jeune adolescent, je dirais. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Hitchcock, il apparaît brièvement dans chacun de ces films. C'est une petite touche d'auteur de ces films qu'il y est. Et ça faisait toujours plaisir à Noël avec mes parents d'essayer de désigner. C'était lui, Hitchcock, c'était lui, c'était lequel? Et on était tous fiers de l'avoir repéré dans le film, juste pour quelques instants. Mais à travers cela, il s'est montré lui-même. Le directeur au-dessus du film s'est inséré lui-même dans l'histoire. Pour ça, juste un peu de fun par rapport à ce film. Mais Christ révèle Dieu, pas pour du fun, mais pour que nous puissions le connaître. Il est entré dans notre histoire pour révéler qui il est. Il y a dans le Nouveau Testament, on parle du Fils qui est l'image de Dieu invisible. Et le Dieu que le Fils révèle, il est comment selon Jean chapitre 1, verset 14, plein de grâce et de vérité. Cela parle de Dieu, pas uniquement du Fils, car le Fils révèle le Père. D'ailleurs, cette expression « grâce et de vérité » est tirée aussi de Exode, chapitre 34. La révélation de Dieu à Moïse, où on entend que Dieu est riche en bonté et vérité. Ça peut se traduire aussi « grâce et vérité », c'est la même expression. C'est une bonté, une fidélité ou vérité que nous voyons suprêmement lors de l'œuvre par excellence de ce Fils. Et pour voir cela, nous allons retomber de nouveau sur Tite, chapitre 3. Car Tite, chapitre 3, verset 6, parle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et cela se construit sur ce que Paul a déjà écrit quelques versets auparavant, en Tite, chapitre 2, que vous n'avez pas sous les yeux. Donc ça, vous devez voir sur votre propre téléphone ou votre propre Bible. Là, Tite chapitre 2, le verset 13, parle de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Le Christ Jésus, donc, est Dieu, tout comme le Père est Dieu. Et qu'a-t-il fait, ce Dieu? D'avant tous les temps, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. C'est là, chers amis, où nous voyons à quel point il est bon. Il prend sur la croix la colère sainte de Dieu sur toute iniquité, tout péché, tout orgueil de l'homme qui fonde de nous des enfants de colère. Et il fait ça librement, par pure bonté, malgré son innocence, malgré sa sainteté. Il paye ce que nous aurions dû payer pour que nous ne devions plus payer le prix de ce jugement que notre péché devait engendrer. Il nous libère, il nous rachète donc de nos péchés, des ténèbres, pour nous mener dans sa lumière. Et maintenant, chapitre 3, verset 7, que dit Tite 3, 7 ? Ainsi, justifiés, non pas selon le verset 5, parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais verset 7, par sa grâce, par sa bonté, nous, ceux qui croient dans le Fils, nous devenons héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voici donc le rôle du Fils dans l'œuvre de Dieu. Mais comment cette œuvre de Dieu, le Père et Dieu le Fils, est rendue une réalité dans la vie d'un croyant en Jésus-Christ? Et pour cela, troisièmement, nous nous tournons notre regard vers l'Esprit. Tite, chapitre 3, verset 5, nous dit ceci: « Il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. » C'est grâce à l'Esprit de Dieu qui procède du Père et du Fils que l'œuvre de la régénération a lieu. Sans cette œuvre de l'Esprit, cette naissance spirituelle, cette régénération dont effectue Dieu dans le cœur de chaque enfant né de Dieu, selon l'apôtre Jean, il est impossible d'être chrétien. Ailleurs, l'apôtre Paul dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons affirmer que Jésus-Christ est Seigneur. Ça témoigne de l'œuvre de l'Esprit que nous disons cela. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ, selon Romains chapitre 8. Parfois, vous savez, dans les milieux pentecôtistes, charismatiques, ou même évangéliques, nous parlons de l'Esprit comme étant rien qu'une puissance pour faciliter la puissance spirituelle du croyant, pour pouvoir exercer l'un ou l'autre don, pour pouvoir grandir en sainteté. Mais de faire cela limité, l'œuvre de l'Esprit à ces domaines-là, c'est de diviser les personnes de la Trinité de manière non biblique. Car chaque personne de la Trinité est présente dans tout ce que Dieu fait, car Dieu n'est qu'un. Et si le Père sauve, Le Fils et l'Esprit sont également engagés dans cette action. Ils œuvrent ensemble. Et sous-estimés dans le rôle de l'Esprit, dans le comment nous devenons chrétiens, comment nous sommes sauvés, c'est de rendre Dieu pas trinitaire, mais plutôt duotaire, si vous voulez. Non, l'Esprit est nécessaire pour la révélation de la parole de Dieu, pour l'illumination de cette parole. Nous avons chanté cela avec le chant « Ta parole ». Et également pour la régénération du croyant que Dieu effectue grâce à sa parole qui vient de l'Esprit. Donc Père, Fils et Saint-Esprit, voyons-nous, tous les trois impliqués dans notre salut, dans l'œuvre du Fils. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce point 2 « L'œuvre de Dieu à travers le Fils ». Alors, prenons encore une petite pause. Jusque-là, vous en sortez? Ça va? Vous tenez dedans? Parce que dans un sens, ce que nous venons de voir, c'est le B.A.B. de la foi chrétienne. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce seul Dieu qui est unique a toujours, depuis toujours, existé en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul. Et ce n'est pas que chaque personne de la Trinité représente un tiers de Dieu, et un tiers, et un tiers, et qu'ensemble, ils égalent le seul Dieu. Non, chaque personne est pleinement Dieu. Et pour vous illustrer cela, il n'y a rien qui marche, parce que ça va au-delà de ce que nous pouvons vraiment comprendre. Et ce n'est pas simple. Lorsqu'on plonge notre regard, tu me le dis après, Marc.
Je vais te poser une question parce que tu as dit que vous suivez le Fils jusqu'à présent. Mais juste une chose, tu as dit à un moment donné, c'est grâce à l'Esprit que Dieu et le Fils, je n'ai pas perçu là-dessus.
Je vais revenir avec toi là-dessus plus tard, Marc. Ça va? Alors, ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas simple. Vous êtes d'accord avec moi? C'est au-delà de notre portée. C'est un mystère que Dieu soit un et trois en un. Mais ce n'est pas pour autant que c'est du non-sens. Non, loin de là, c'est essentiel. Alors, pour illustrer cela, je vais vous parler juste rapidement de Nicolas Copernic. J'imagine, vous le connaissez, j'ai lu cette illustration moi-même il y a quelques jours. Il est généralement crédité d'avoir établi, j'espère que vous le savez, que le soleil, et non la Terre, est au centre de notre système solaire. Vous savez cela? Si vous ne savez pas cela, allez demander à quelqu'un, il va vous expliquer cela plus tard. À l'époque où lui, il étudiait, avant l'exploration spatiale, etc., cela relevait de l'imagination de dire cela. Tout dans nos sens, à cette époque-là, suggérait que la Terre était vraiment le centre. Comment savons-nous que la Terre tourne en fait autour du Soleil? Pourquoi ils ont estimé bon de croire à cela? Personne n'est monté dans une fusée, personne n'a mesuré le diamètre du système solaire et a ensuite localisé le Soleil au milieu. Non, au contraire, ils ont découvert deux choses, déduit deux choses. Premièrement, nous avons vu à quel point le mouvement des planètes est désordonné lorsque vous placez la Terre au centre. Et deuxièmement, quand vous placez le Soleil au centre, soudainement, le mouvement de toutes les planètes a un sens. Alors, la doctrine de la Trinité fonctionne comme ça, chers amis. Ce n'est pas une doctrine qui a du sens en elle-même. D'ailleurs, c'est connu que le mot « Trinité » ne se trouve pas dans la Bible. Mais c'est une doctrine sans laquelle rien d'autre n'a de sens dans la vie chrétienne. Et sans laquelle il n'y aura pas d'incarnation, il n'y aura pas de salut. Elle se trouve, cette doctrine-là, au centre de notre foi, comme le soleil au centre de notre système solaire. Et cela me mène à notre dernier point, notre conclusion. de ce matin, la grandeur de Dieu et le privilège du croyant. Peut-être vous vous souvenez en Exode 33, juste avant la révélation de Dieu à Moïse. Moïse s'entretenait avec le Seigneur après l'épisode du veau d'or pour plaider avec Dieu de ne pas abandonner le peuple d'Israël. Et Moïse, après avoir reçu la promesse du Seigneur de faire ce que Moïse lui demandait, il monte un cran dans ce qu'il demande pour, si vous voulez, marteler cette promesse de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui demande ? « Fais-moi voir ta gloire », lui demandait-il. La réponse du Seigneur dans Exode 33, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Pour cette raison, lorsque Dieu passe devant Moïse, Moïse était caché dans un creux du rocher. Et Moïse ne pouvait que voir le Seigneur par derrière, nous dit le texte. Mais que dit Jean, chapitre 1, verset 14 ? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Vivre, chers amis, après la venue de Jésus-Christ, c'est de bénéficier du privilège de la connaissance de Dieu dans la face de Christ. C'est de contempler la gloire de Dieu d'une façon encore plus privilégiée que Moïse. De contempler l'essence même de qui est Dieu. Comment Paul parlait-il de Jésus en Tite 2:11 lorsqu'il parle de ce que font les chrétiens? Selon Paul, nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur, le Christ Jésus. Oui, notre Dieu, il est grand. Et c'est bien qu'on commence là en 2022. Ensemble. À quel point il est grand. Il confond les attentes que nous pouvons avoir de lui. Il dépasse les connaissances que nous pouvons atteindre. Il révèle les profondeurs, oui, des ténèbres du cœur humain, mais ensuite les profondeurs de sa lumière, de sa patience, de sa bonté, de sa compassion. La réaction de Moïse face à cette révélation, Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. La réaction de Thomas à la fin de l'évangile de Jean, lorsqu'il place sa main dans le côté de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, la grandeur de notre Dieu, qui il est, ce qu'il a fait, suscite de l'adoration. Et quelle libération, chers amis, de découvrir à quel point nous sommes faits pour reconnaître nos limites en tant qu'êtres humains. Au lieu d'être maîtres de nos circonstances, de nos propres destins, nous pouvons nous confier pour une année complète encore à venir dans les mains de celui qui est infiniment plus grand, plus bon que chacun d'entre nous. L'incarnation de Jésus-Christ nous permet de capter cela, de vivre à la lumière de cela. Mais j'aimerais terminer, si vous me permettez, je sais que le temps passe là maintenant, avec Tite chapitre 3. Parce que le contexte de ce que nous avons lu en Tite, c'est une exhortation à nous comporter différemment. Est-ce que vous voyez ça au verset 1 ? Rappelle-le d'être soumis au gouvernement, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médier de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, odieux, et nous haïssons les uns les autres. Vous voyez, ici, Paul, il veut encourager les chrétiens à Crète de ne pas vivre comme avant. Et moi, j'aimerais vous encourager en ce début 2022, de ne pas vivre comme ça non plus. Mais comment est-ce qu'il arrive à cette exhortation-là? Il leur explique la merveille de l'œuvre grandiose de notre Dieu trinitaire, dans les versets 4 à 7 que nous avons vus. Comment vont-ils donc exceller dans les œuvres bonnes dont il parle au verset 8? Comment est-ce que vous allez exceller dans ces œuvres bonnes tout au long de l'année 2022? Comment est-ce que vos enfants, si vous êtes parents, vont exceller dans ces œuvres bonnes cette année-ci? Par la puissance de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous sauve, qui nous régénère, qui nous justifie, qui nous comble de sa bonté, qui nous donne une espérance de la vie éternelle. Vous voyez, notre privilège, chers amis, ce n'est pas de dépendre de nous-mêmes, mais de nous appuyer sur l'œuvre de notre Dieu trinitaire. Que l'identité et l'œuvre de ce Dieu soient encore au centre de notre foi commune, notre activité en tant qu'Église en 2022, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos relations fraternelles. Le reste, si vous voulez, c'est de l'emballage. Je suppose que vous avez pris l'emballage de vos cadeaux et déjà ça se trouve dans un sac poubelle, n'est-ce pas? Focalisons-nous sur le centre, saisissons la grandeur de notre Dieu. Et l'immense privilège de le connaître. Prions. Quelle joie, Seigneur, effectivement, de te connaître, toi le grand Dieu et Sauveur. Et donne-nous d'être un peuple qui excelle donc dans les œuvres bonnes, mais non pas en dépendant de nous-mêmes, en pensant que nous sommes forts pour cela. Mais parce que nous dépendons de toi, le Dieu trinitaire a l'œuvre en nous pour te glorifier. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sois honoré, sois glorifié tout au long de cette année. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.